Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission week-end. Gros programme, pour démarrer, on va parler recrutement et plus spécifiquement comment attirer, recruter et fidéliser les jeunes. C'est Walid Atroubi, le patron de Haze France, qui répondra à mes questions. Ensuite, on va parler du temps qu'on passe en réunion. Une journée de travail par semaine, c'est l'estimation de Victor Caro, le fondateur, le cofondateur de Comet Meetings. Une journée par semaine coincée en réunion, c'est le sort des Français mais aussi des Espagnols et des Belges, vous verrez. Et puis pour conclure, on parlera pénurie de recrutement dans la tech. Vous connaissez le métier de DevOps, peut-être que votre entreprise se bat pour essayer d'en recruter. On parlera de tout ça avec l'entreprise Blue Coders.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
On va parler évidemment problème de recrutement. C'est le sujet pour tellement d'entreprises, grandes ou petites. On va se poser précisément la question de comment recruter et comment fidéliser les jeunes. Et pour faire ça, on accueille Walid Atroubi. Bonjour Walid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'un cabinet de recrutement très connu. Il s'agit de Haze. C'est un sujet, les jeunes, qui touche particulièrement votre clientèle en cette rentrée 2022.
Exactement. On a aujourd'hui une difficulté à recruter. On est sur un marché de candidats. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est clairement là-dessus. La tendance s'est inversée, mais elle s'est inversée depuis maintenant assez longtemps. L'objectif pour nous maintenant est d'essayer de trouver comment mettre en lien les envies, les nouvelles envies des candidats et les besoins de nos clients.
Walid, un marché de candidats, ça veut dire concrètement quoi si on mettait des chiffres là-dessus?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un candidat va potentiellement avoir 4 ou 5 offres concrètes sur un poste et avoir un panel de choix pour pouvoir décider du poste qui lui correspond le mieux.
Alors, comment attirer les jeunes dans son entreprise avec ce marché de candidats? D'abord, définissons peut-être ce qu'on entend par un jeune. Quelle est la définition chez Haze d'un jeune candidat?
Écoutez, on n'a pas réellement de définition. Je pars du principe que un jeune pour nous, je pense que ça va être à peu près entre 3 et 8 ans d'expérience. Je pense que c'est à peu près ce qu'on va situer. Alors évidemment, on va prendre aussi les 1 ou 2 ans, mais pour avoir une fourchette, on va dire entre 3 et 8 ans.
Alors faut-il s'intéresser particulièrement aux jeunes parce qu'on est dans un concept pénurique ou parce qu'on est dans un contexte de formation compliquée? Quel est l'intérêt de s'intéresser aux jeunes d'un point de vue entreprise?
Alors, du coup, c'est le renouveau, déjà pour commencer. Et puis, c'est les candidats disponibles, parce qu'aujourd'hui, c'est plus eux qui sont sur le marché que ceux qui sont déjà établis. En l'occurrence, on va recruter tout type de personnes, peu importe leur âge. Mais factuellement, aujourd'hui, ceux qui sont le plus sur le marché disponible vont être les 3-8 ans.
Alors là, on parle beaucoup de la grande démission. On parle beaucoup d'un certain désengagement qui concerne les jeunes, les vieux. Comment ça se matérialise dans la catégorie jeunes? Qu'est-ce que vous observez chez Haze?
Écoutez, ça fait très longtemps qu'on entend ce terme. Alors, je sais que c'est un terme très à la mode en Amérique du Nord. On l'entend très souvent. Nous, on ne l'a pas constaté, en tout cas, sur nos métiers avec nos clients. Le marché continue à être dynamique. Les candidats, aujourd'hui, ont le choix. Donc, c'est plus compliqué pour recruter. Maintenant, il n'y a pas de grande démission particulière. Il y a des gens qui, mais comme les générations précédentes, j'en suis convaincu, cherchent à donner du sens à ce qu'ils font. Et peut-être que du coup, sur un marché où ils ont un avantage concurrentiel, sont peut-être plus mobiles qu'avant.
Alors justement, plus mobiles, est-ce qu'on peut dire qu'en 2022, les jeunes gens, ils ont moins peur de démissionner que leurs aînés?
Alors c'est souvent une question qu'on me pose, on me la pose en 2022, mais on me la posait déjà en 2018, en 2017, et je pense simplement qu'encore une fois, on est plutôt sur une façon de penser qui peut-être se remarque plus maintenant, parce qu'on est à l'ère du digital, on est à l'ère des réseaux sociaux, et donc je pense qu'on a plus d'études aussi qui sont faites là-dessus, mais je pense que depuis déjà un certain nombre d'années, les salariés ont plus tendance à bouger et ont moins peur. Peut-être que par rapport aux années précédentes ou par rapport aux périodes précédentes.
Alors parlons attraction. Si on veut capter, attirer et garder autant que possible un profil de jeune qui est, donc on a dit, quelque part entre 3 et 8 ans d'expérience, qu'est-ce qu'on doit avoir? Quelle est la checklist qu'on doit cocher? Télétravail, salaire, mission à sens, qu'est-ce que vous nous donneriez comme top 3?
Alors, vous venez d'en nommer trois, déjà, qui sont très, très intéressants. Et puis, vous avez dit une chose très intéressante. C'est vous avez dit comment on fait pour les recruter et vous avez dit comment on fait pour les garder. Parce que c'est ça aussi.
C'est deux problèmes différents.
Et totalement. Parce qu'on est sur le fait d'attirer des candidats. Très bien. Mais ensuite, il faut les garder. Donc, il faut réussir leur intégration et continuer à évoluer avec eux au sein de l'entreprise pour ne pas repartir à zéro tous les ans. Et donc, vous avez cité des éléments qui sont incontournables. Le télétravail, évidemment. Ce qui, il y a trois ans, était quelque chose d'incroyable, est aujourd'hui la norme. Comme il y a 20 ans, d'avoir un baby-foot au bureau était incroyable. Écoutez, tout ça aujourd'hui fait partie de la norme, puisqu'on sait aujourd'hui que 41% des décideurs, donc des entreprises, sont pour le télétravail. Et donc ça, c'est une chose qui est aujourd'hui essentielle pour attirer et garder des candidats. Vous avez parlé du salaire. Évidemment, il faut être en adéquation avec, avec le marché, ne pas tirer vers le bas. Et ensuite, il y a aussi évidemment la QVT, donc la qualité de vie au travail. Il faut insister là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est un des items qui est passé devant le salaire. Et alors que pendant très longtemps, le salaire tenait la tête, aujourd'hui, dans les différentes études qu'on a pu faire dans mon cabinet, on note que ce que cherchent avant tout les candidats lors de leur choix par rapport à deux postes, c'est vraiment la qualité de vie au travail qui est proposée par l'entreprise.
Si on zoome dans cette QVT, qu'est-ce qui ressort comme le plus important en 2022 ?
La flexibilité, au niveau des horaires par exemple, de pouvoir gérer son timing à sa manière, de pouvoir gérer aussi son poste avec plus de flexibilité, donc avoir un pouvoir de décision plus important, avoir une relation avec son manager qui est plus personnalisée et moins en vertical. Et je vais vous dire les avantages aussi en dehors du salaire. Et en dehors du salaire, ça peut être les différentes salles qu'il y a de repos, par exemple dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a proposé de pouvoir se déplacer avec des transports verts, enfin. Et aussi, et ça c'est primordial et je veux le dire, c'est la marque employeur. Il est important d'y faire attention et de la faire vivre. Et pas seulement de communiquer, parce que communiquer c'est important, mais de vraiment la faire vivre en interne. Parce que les gens se parlent et les réseaux sociaux sont extrêmement importants.
On ne peut plus mentir.
C'est très compliqué.
Dans cette relation jeune recruté recruteur, on se choisit mutuellement. On a l'impression que maintenant le recrutement c'est vraiment un matching. Qu'est-ce que vous aimeriez dire parfois à vos clients côté entreprise et parfois aux candidats qu'on ne dit pas assez ? Si vous deviez passer un message en ce début d'année scolaire.
Alors vous l'avez dit, vous l'avez encore une fois dit, à juste titre, c'est un matching. L'objectif de l'entretien, il est assez simple. Il est de voir est-ce qu'on a envie de travailler ensemble. Donc le recruteur, enfin l'entreprise va chercher un candidat, le candidat cherche du boulot. Donc les deux sont liés aujourd'hui. Ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre. Donc la relation, elle est 50-50, elle est win-win. Donc l'objectif, pendant l'entretien, et je le dis souvent aussi bien aux clients qu'aux candidats, on leur dit, l'objectif est de voir est-ce que entre vous le courant passe, est-ce que vous vous voyez bosser ensemble pendant des années.
Alors on est en septembre. Si vous deviez nous donner trois prévisions pour les prochains mois, qu'est-ce que le patron de Hays en France envisage ou aimerait voir se passer ?
Écoutez, je vais essayer. on est sur un monde quand même vraiment incertain, puisque du coup, il y a quand même des données qui sont totalement différentes de celles qu'on vit en France, parce que lorsqu'on allume la télévision, on constate beaucoup de choses qui nous disent que ça va être compliqué. Nous, sur le terrain, en tout cas, aujourd'hui, ça va très bien. Donc, c'est assez délicat. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier.
Ça veut dire quoi, ça va bien, concrètement ?
Ça veut dire que, du coup, les entreprises recrutent. Les candidats, encore une fois, sont là. Ils se font désirer parce qu'ils ont beaucoup d'offres, mais ils sont là, ils cherchent du travail, ils sont investis dans leur recherche. Donc, moi, j'ai envie d'espérer qu'on n'aura pas de crise ou de situation compliquée à vivre, comme on a pu vivre juste avant le confinement, comme on a pu vivre en 2008. En tout cas, les éléments aujourd'hui factuels de chiffres par rapport à nos clients nous disent que les choses vont plutôt bien marcher.
À quelle vitesse aujourd'hui on arrive à recruter quelqu'un ? Quel est le recrutement le plus express qu'on peut faire dans un contexte pénurique et dans un contexte compliqué ?
Alors écoutez, en 2008, après la crise de 2008, on faisait en moyenne 4 entretiens pour recruter une personne. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 2. Parce qu'on a besoin d'aller beaucoup plus vite. Parce que les offres vont très rapidement. Mmh. Et donc, les candidats sont sous offre extrêmement rapidement. Et donc, aujourd'hui, on fait 2 entretiens. Parfois, dans la même journée. Le RH et puis l'opérationnel dans la même journée. Donc, on peut faire un process en 10 jours. Le process, voire en une semaine. Parfois, le process peut être fini.
Un marché de candidats, donc des temps de recrutement divisés par 2. Et le moral, je dirais, de vos clients dans un contexte où, avant l'été, on disait, la CPME disait que 9 PME sur 10 galéraient à recruter. Est-ce que vous sentez que, pour les PME, l'optimisme est là, malgré les difficultés ? Est-ce qu'on a quand même confiance dans le fait qu'on va réussir ultimement à faire un recrutement ?
Je pense que la confiance est là. Maintenant, le temps, c'est de l'argent. Donc, chaque temps où on n'a pas une personne à son poste, ben, c'est des contrats perdus, c'est des livraisons qui ne sont pas faites, par exemple. Donc, je pense que l'optimisme est là. Et après, en l'occurrence, pour les PME, ont des avantages par rapport aux grands groupes sur le fait que leurs postes peuvent être diversifiés et plus larges. Ouais. Et donc, elles attirent tout autant qu'un grand groupe qui peut peut-être être plus spécifique sur le poste, avec une rémunération peut-être qui va être autre, mais qui du coup joue dans la même cour que la PME qui propose des postes diversifiés.
Voilà, on a essayé de prendre le pouls en ce début d'année sur le marché du recrutement, en particulier les jeunes. Et puis, je vous remercie, Walid Atroubi. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet de recrutement ACE.
Merci à vous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Un jour par semaine, c'est le temps qu'on passe en moyenne en réunion. C'est le chiffre que notre invité du jour nous avance. Bonjour Victor Caro.
Bonjour Lorraine.
Victor, vous êtes le cofondateur de Comet Meetings. Avec vous, on est dans l'univers du bureau avec service. Votre mantra, c'est « Meeting is a new office ». Et pourtant, meeting, réunion, c'est un jour par semaine d'après une étude que vous publiez. Dites-nous un peu plus autour de ce chiffre.
Oui, volontiers, parce qu'effectivement, la réunion est un sujet qui touche tout employé de bureau. Et Comet, nous sommes spécialistes de la réunion de A à Z. C'est-à-dire, nous sommes spécialistes des lieux de réunion pour faire des séminaires, mais également du service qu'on y met et également du contenu qu'on y apporte pour faire de meilleures réunions. Et cette étude que nous avons menée auprès de 3000 répondants en Europe, en France, en Belgique et en Espagne, nous a montré quelques chiffres assez édifiants. Déjà, le fait qu'en moyenne, on passe une journée par semaine en réunion, ce qui est effectivement colossal.
Alors, une journée, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 heures? Une journée ouvrée?
Non, c'est une journée plutôt de 7 heures. Une journée de 7 heures, même si 25% des managers passent pour le coup 12 heures par semaine en réunion, ce qui est colossal. Mais les quelques chiffres marquants sont notamment le fait que plus d'un Français sur deux, je vais vous concentrer sur la France, plus d'un Français sur deux se retrouve régulièrement à une réunion sans savoir pourquoi il y est. Donc ça, c'est quand même...
Je suis sûr que ça parle à certaines personnes qui nous écoutent.
Je pense que ça parle à beaucoup, surtout qu'en cette période de rentrée, avec à la fois au Parlement, le vote du budget, des réunions de rédaction évidemment, des réunions parents-professeurs, on réalise tous que nous sommes face à ces réunions qui peuvent être assez peu fructueuses. Deuxième chiffre marquant, 89% des répondants se retrouvent régulièrement face à des réunions inutiles, qu'ils jugent inutiles. Pareil, colossal, et le tout... deux derniers chiffres, sachant que 3 Français sur 4 souhaiteraient que l'on améliore, qu'on les forme, que leur entreprise les forme à faire de meilleures réunions, exactement, alors que seulement un tiers en a bénéficié. Donc on voit qu'il y a un réel potentiel pour faire ce qu'on fait depuis 6 ans, qu'on pousse depuis 6 ans, c'est aider les Français à faire de meilleures réunions dans les meilleurs lieux avec un meilleur contenu.
Alors Victor, attendez, je vais rebondir quand même sur cette histoire de comment être formé à la réunion. Concrètement, comment on ferait pour former les gens? Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise? Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, une formation CPF? Comment on adresse ce problème?
Alors c'est très clairement notamment la responsabilité de l'entreprise. On peut tous se former. La réunion n'est pas une science extrêmement complexe. Vous pouvez commencer déjà en lisant un petit livre qu'on a écrit il y a près de 4 ans qui s'appelle La Cométhode. Je vous en ai apporté un exemplaire ici parce que je sais que vous faites quelques réunions quand même, notamment de rédaction. C'est pour voir comment, avec quelques conseils simples, ici on a 60, mais on peut en tirer 7 qui sont à la substantifique moelle. Comment est-ce que par ces 60 conseils, on peut améliorer au quotidien ces réunions? Et c'est comment mieux travailler l'avant, le pendant, l'après. L'avant, c'est est-ce que je dois vraiment me réunir? Probablement une réunion sur deux ne mériterait pas d'avoir lieu. Si j'en fais une, comment est-ce que je structure mon agenda? Comment est-ce que j'envoie des éléments à lire avant la réunion pour que la réunion commence déjà? Et ainsi de suite. Et ça, c'est que sur l'avant. Et on réalise que rien que sur le pendant, dans le fait de donner des rôles, dans le fait de se limiter à 45 minutes lorsqu'on a une réunion d'une heure, dans le fait de tenir ce temps, de commencer à l'heure, on voit qu'il y a énormément de conseils que nous pouvons prodiguer. Et donc, comment est-ce qu'on les prodigue? Oui, une entreprise peut elle-même former ses collaborateurs. Chez nous, nous avons notamment un meeting évangéliste, Florian, dont le rôle est celui-là, c'est d'aider nos clients à faire de meilleures réunions. Et donc, lorsqu'un client vient pour réserver dans l'un de nos bâtiments parisiens, bruxellois ou Madrid, pour une journée de réunion ou de formation ou de séminaire, on lui propose de parler, bien évidemment, gratuitement à notre meeting évangéliste.
Un coach pour, en réunion, en fait.
Exactement, pour améliorer ses réunions et pour mettre en relation avec des experts qui peuvent aller sur des thématiques très précises.
Alors, vous l'avez dit, votre étude, vous l'avez faite à la fois en France, en Belgique et en Espagne. Est-ce que ce problème de la réunion pas préparée, trop chronophage et donc trop important dans les agendas, c'est un problème vraiment européen? Est-ce qu'on est pire en France qu'en Belgique et qu'en Espagne? Comment ça se passe?
Oui, question très intéressante. On est tous à peu près dans le même panier. Ah oui. On voit qu'ensuite, suivant les sujets, on va plus ou moins répondre à côté. Exemple, les Espagnols vont être plus nombreux à se retrouver régulièrement à faire des réunions où ils ne savent pas pourquoi ils sont conviés. Oui. Tandis qu'en France, on est plutôt les champions de ces réunions considérées comme inutiles. Le score de 89% de Français interrogés qui se retrouvent dans des réunions qui se révèlent inutiles est le score le plus élevé, par exemple, des trois pays qu'on a interrogés.
Est-ce que quelque chose de générationnel dans notre rapport à la réunion? On parlait juste avant vous de comment recruter mais aussi garder les jeunes dans ces entreprises. Est-ce que les jeunes sont moins tolérants à la réunionite aiguë?
Alors, deux éléments de réponse. Un élément purement basé sur l'étude, un élément plus large basé sur notre expertise chez Comet Meetings. Sur l'étude, on réalise qu'en France, les personnes, pour le coup, le chiffre ici, plus on est âgé, moins on a été formé à la réunion. Donc ça, c'est le seul élément générationnel qu'on ait pu voir et qui ne se détache pas en Espagne ou en Belgique. Mais plus généralement, et c'est un sujet capital, aujourd'hui, le fait de faire de bonnes réunions est devenu stratégique pour une raison très simple, mais que tout le monde comprendra. Post-Covid, nous sommes dans des entreprises où le télétravail est devenu structurel et nous réalisons que, c'est ce que vous mentionniez, notre mantra chez Comet, c'est « Meeting is the new office », le futur du moment ensemble, c'est un moment de réunion, parce que tout ce que l'on peut faire en télétravail doit être avant tout des tâches de production lorsqu'on travaille seul et qu'on cherche à ne pas être dérangé, tandis que dans l'open space, on est dérangé tous les 12 minutes en moyenne. Mais les moments qu'on passe entre collègues, que ce soit au bureau ou dans un tiers-lieu comme Comet Meetings, eh bien, ces moments doivent être des moments et de collaboration et de sociabilisation. Et je dis que c'est d'autant plus important parce que le télétravail nous éloigne de façon évidente, on l'a tous vu, et que générationnellement, le lien que nous avons à notre génération par rapport à celle de nos parents ou de nos grands-parents à leur entreprise a complètement changé. Mon grand-père a fait une entreprise dans toute sa carrière. Aujourd'hui, si on passe plus de 5 ans dans une boîte, on va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Est-ce que vous manquez pas un peu d'ambition? Voilà. Et donc, tout cet enjeu pour les entreprises de dire si elles ratent ces rendez-vous qu'elles donnent à leurs employés qui deviennent cruciaux, alors elles les perdront.
Un mot avant de conclure. Gallup mesure l'implication, l'engagement salarié en général, mais aussi au travail en général, mais aussi sur le lieu de travail. On dit que moins de 6% des Français, des salariés français, se sentent engagés au travail et en particulier sur le lieu de travail. Faire un lieu de travail où les réunions sont plus dynamiques, est-ce que c'est pas une des clés de l'engagement ou, pour le dire autrement, du désengagement?
C'est fondamental. Et vous le dites, si nos équipes se désengagent, alors nous perdrons le capital de nos entreprises, qui est avant tout un capital humain. Et pour les réengager, il y a deux solutions. La première, c'est créer des lieux et s'assurer que ces moments de retrouvailles, ces moments de réunion soient extrêmement porteurs. Et à côté de ça, c'est peut-être le fait de créer des communautés, davantage de communautés dans nos entreprises pour faire en sorte que les équipes qui se voient moins souvent se retrouvent de façon différente. Sans cela et sans ces réunions réussies, probablement nos entreprises perdront tous leurs talents dans les années à venir.
Le mot de la fin, une best practice pour les gens qui mènent des réunions hybrides, à la fois avec une partie des équipes présentes et l'autre en télétravail ou en visio, qu'est-ce que vous recommandez?
De les éviter. On le voit bien. Il y a un an, nous avions beaucoup de demandes pour des réunions hybrides. Aujourd'hui, plus du tout, parce que nos clients ont tendance à dire que soit nous sommes tous en distanciel, soit tous en présentiel. Et d'ailleurs, une chose importante, le distanciel fonctionne pour des réunions. Si elles durent à peu près 45 minutes max pour 5-6 personnes,
c'est déjà tellement long.
Après 45 minutes, vous avez envie de fermer votre ordinateur. Et au-delà de ça, vous perdez 90% des équipes qui sont connectées et vous avez besoin de le faire en présentiel. Mais l'hybride a du mal à être une solution.
Voilà, c'est une des tendances peut-être qu'on peut anticiper et souhaiter dans les entreprises, arrêter les réunions hybrides. C'est le conseil de Victor Caro. Je répète que vous êtes cofondateur de Comet Meetings. Merci beaucoup pour votre éclairage, Victor.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
On va zoomer sur un secteur qui m'est cher. On va parler de la tech et on va parler plus précisément de comment recruter des talents tech dans un marché non seulement pénurique, mais en plus en plus cher et de plus en plus vide de candidats, on va le dire comme ça. Et on va discuter de tout cela avec Christophe Hébert. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Blue Coders. Alors vous, votre job, si je résume Christophe, c'est je vous trouve le meilleur candidat tech pour vos besoins tech.
Absolument.
Qu'est-ce que vous faites précisément de mieux que vos concurrents, de mieux que les autres solutions du marché?
Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, mais alors nous, justement, chez Blue Coders, on va essayer de faire mieux que les autres. Et moi, ça me tenait à cœur en tant que profil tech, puisque je suis ingénieur développeur à la base, c'est d'avoir envie d'offrir à la communauté tech un service de recrutement qui soit au-dessus de ce qu'on voit en général. Il y a une grosse frustration, j'ai envie de dire, chez les candidats tech, qui ont l'impression d'être les cordonniers les plus mal chaussés. Et donc nous, chez Blue Coders, on va faire attention à savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on va déjà extrêmement bien former nos recruteurs pour qu'ils soient capables de parler avec des candidats. Donc parler avec un candidat, ça veut dire comprendre le rôle que cette personne a envie d'avoir dans une équipe, les problématiques sur lesquelles il va travailler, qu'il va savoir résoudre, et puis quelles sont les technologies, les outils qu'il va pouvoir utiliser.
Parce que si je reformule le problème de beaucoup d'entreprises, tech ou pas tech, qui ont besoin de recruter des profils tech, c'est que la personne qui recrute n'a pas forcément les compétences pour comprendre le métier de la personne qu'elle recrute, en fait. Donc quelque part, le recruteur est forcément parfois obligé de bluffer sur sa propre compréhension des technologies ou de l'enjeu du job qu'il est en train d'essayer pour lequel il est en train d'essayer de trouver un candidat ou une candidate.
C'est tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est qu'il y a un énorme syndrome de l'imposteur chez les recruteurs tech, surtout dans la tech, mais a fortiori dans, on a vu tous les recruteurs qui s'intéressent à des métiers d'ingénierie, je sors d'une école de commerce, des fois de psycho, je suis pas censé savoir développer, je suis pas censé être celui qui fait le métier de mon candidat.
Et oui.
Et donc souvent il y a un amalgame qui se fait, et moi j'ai envie de dire à tous les recruteurs, il faut être en toute décomplexion. Notre travail, c'est d'accompagner quelqu'un dans un process de recrutement, savoir où est-ce qu'il en est dans sa carrière, quelle est son ambition. Dans cette émission, ça parle beaucoup d'engagement, de comment on a envie d'engager son ambition dans un projet. Et en fait, le sujet pour un recruteur, c'est de comprendre ce candidat, quelle est l'ambition que doit avoir un projet pour qu'il ait envie de s'y engager.
En gros, on fait face à une double pénurie. Celui des profils tech, alors ingénieurs, informaticiens, informaticiennes, puisqu'il faut mettre au masculin et au féminin, mais aussi en face, une pénurie de recruteurs, de talent acquisition managers, de personnes qui vont être en charge du recrutement. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer cette double pénurie? Qu'est-ce que vous observez, vous, chez Blue Coders?
Alors, ce qu'on observe chez Blue Coders, c'est que la première chose, c'est qu'en réalité, si je cherche qu'il me manque un talent tech, finalement, je suis en train de faire du recrutement tech. Donc, ça veut dire que mon problème, c'est plus d'avoir un talent tech, c'est d'avoir un recruteur tech. Un recruteur tech, il va réussir à trouver, on va dire, une vingtaine de candidats à l'année. Alors, peut-être en équipe, on peut réussir à optimiser les choses, mais déjà, on est sur des belles performances. Et après, sur la tension qu'il y a sur les métiers de la tech, ça va être assez variable. Finalement, le secteur le plus tendu, c'est même pas là où les gens sont le plus compétents. C'est qu'en fait, tout le monde cherche, et d'ailleurs c'est un peu la blague quand on sort d'études, tout le monde veut des gens de 3-5 ans d'expérience. Parce que le talent ou la personne qui va être formée, qui va commencer à être spécialisée comme on peut avoir sur les métiers de la tech, dans l'ingénierie, quand il a 3-5 ans d'expérience, il ne vaut pas encore trop cher, il est déjà très compétent. Et donc du coup, on a cette plus grosse tension ici, et donc pour répondre clairement, il y a des métiers comme les métiers de l'infra, comme le métier de DevOps, où c'est très tendu, c'est-à-dire qu'il y a un candidat, il va avoir une vingtaine d'offres en face de lui, et puis des métiers qui restent assez tendus, mais qui le sont peut-être un peu moins, comme les métiers du développement, où là je vais avoir 10-15 offres.
Dites-nous quelques typologies de postes. Vous avez parlé des DevOps. Quels sont les autres métiers concrètement, junior, senior, niveau junior, niveau senior, qui sont pénuriques?
Ça va être tous les métiers du développement. En fait, on voit qu'on a des gens qui sont de plus en plus spécialisés sur des problématiques dont les entreprises ne peuvent se passer. Souvent, une start-up, quand elle commence à avoir un certain nombre d'utilisateurs, donc là, je parle peut-être en particulier sur les start-up du SaaS, je vais avoir des problématiques de pic de charge. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vais avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont arriver sur ma plateforme. Et en fait, là, en informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre à gonfler l'infrastructure. Et donc, tout ça, ça veut dire, si jamais il y a trop d'utilisateurs, il va falloir gonfler l'infrastructure. En fait, je vais développer du si alors sur de l'infra. Et donc, j'ai envie de dire, le DevOps aujourd'hui, c'est quand même le plus demandé, parce qu'il va avoir de l'impact sur tout le business. Et après, sur les métiers du développement, ce qui va créer la tension, c'est que là où une entreprise va avoir un DevOps, elle va avoir 10 développeurs. Donc finalement, il y a beaucoup plus de développeurs, mais le marché reste un petit peu plus fluide.
Pour les étudiants, pour les parents qui nous écoutent, comment on peut surfer cette vague pénurique que vous décrivez? Est-ce que c'est possible à très court terme de la surfer pour des étudiants qui sont sur les bancs de l'école aujourd'hui, ou pour des parents qui conseillent leurs enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir profiter de cette pénurie de talents en tech?
À tous les parents du coup qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire qu'il faut avoir confiance.
Grand-parent,
il faut avoir confiance dans ce marché. Il faut avoir confiance si on voit qu'il y a un enfant qui est un jeune adulte qui se sent capable, qui a envie. Il faut le laisser aller dedans avec de la confiance, parce que même si, en fait, ce qu'on voit, c'est que s'il y a des nouveaux métiers comme DevOps, comme data engineer. Mais en fait, le jour où ce nouveau métier se crée, je vais aller chercher quelqu'un qui a la compétence de le devenir. Je vais pas. Donc c'est un peu là, des fois aussi une autre blague. C'est il y a une technologie qui a un an d'existence et on cherche déjà des gens de 3 ans d'expérience. Alors que c'est pas possible.
Voilà, vous mettez le doigt sur évidemment des évolutions qui vont très vite tant en termes d'outils qu'en termes de besoins qui continuent à grossir. Merci de nous avoir aidé à zoomer sur ces métiers de la tech pénurique, Christophe Hébert. Je rappelle que vous êtes fondateur de Bluecoder et que vous, avec votre équipe, vous essayez de résoudre ce problème de comment attirer, évaluer aussi et puis recruter ces compétences nécessaires dans les entreprises. Voilà, c'est la fin de Happy Boulot le mag. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On essaye d'adresser un maximum de problèmes sur lequel vous m'écrivez sur LinkedIn. Je salue notamment Morgane qui nous a écrit et on espère qu'on a répondu à sa question. Elle nous disait « Former les recruteurs IT à l'informatique est indispensable. Une meilleure compréhension du secteur pour mieux approcher et recruter les talents tech. » Je vous précise que cette émission est à retrouver bien sûr sur le site de BFM Business, sur nos applications. Puis il y a un petit QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Vous pouvez le flasher et vous allez retrouver notre plateforme avec tous nos replays et nos podcasts. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à toute l'équipe et puis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.